Guerre, stress géopolitique au Moyen-Orient, la chute de l'or en bourse, la chute des métaux précieux en bourse, or et argent, depuis le début des opérations militaires du 28 février dernier. Cette chute est-elle une opportunité? Le cours de l'or a-t-il perdu son aspect refuge face au stress géopolitique? La réponse est non. Alors pourquoi a-t-il baissé? Eh bien, il a baissé parce qu'il a perdu des moteurs haussiers essentiels que je vais vous expliquer. Alors la question est, est-ce une opportunité? Peut-on revenir à l'achat? Quand revenir à l'achat sur le plan des fondamentaux, sur l'or? Quand revenir à l'achat sur le plan technique, sur le cours de l'or? Et quid de l'argent qui, lui, est en forte chute depuis son record établi à 120$ au mois de janvier dernier. Chers amis, dans cette vidéo, je vous explique tout et je vais vous rassurer sur le statut de l'or qui était, rappelez-vous, fin janvier, en bulle spéculative. Rappelez-vous la vidéo que je vous ai proposée fin janvier, les verticalisées haussières ne sont pas tenables. Mais il est vrai que là, beaucoup, la doxa est surprise puisque tout de même, depuis le début du conflit, c'est sans appel. Même Bitcoin, c'est dire, a fait mieux, même beaucoup mieux que le cours de l'or depuis le début du conflit. L'énergie est tout en haut, les métaux précieux sont tout en bas. Et autant vous dire que ceux qui ont acheté les métaux précieux en janvier, dans l'euphorie extrême, lisant partout que ça allait à 10 000 dollars, ne comprennent pas pourquoi, alors que c'est la guerre, alors qu'il y a un risque systémique, ces deux marchés drop. Chers amis, guerre, la chute de l'or est-elle une opportunité? Et idem, la chute de l'argent est-elle une opportunité? Si oui, quand revenir à l'achat? Bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Guerre au Moyen-Orient, la chute de l'or et de l'argent en bourse est-elle une opportunité? Chers amis, c'est parti, je déclare la nouvelle session du Fast and Forex ouverte. Par, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, métaux précieux, la verticalité boursière est intenable. Vidéo de fin janvier. Alors, il est vrai que les métaux précieux avaient déjà enregistré début février un violent rejet baissier, tout simplement après avoir atteint les objectifs de cours majeurs depuis le 28 février. Autant vous dire que dans les deux jours qui ont suivi le déclenchement des opérations militaires le 28 février dernier, l'or et l'argent ont progressé avant tout de suite de rentrer dans une phase de chute prononcée, violente, avec des performances qui sont désormais largement baissières depuis le début du conflit. Et beaucoup estiment que l'or, ça y est, c'est fini, ce n'est plus un actif refuge. J'ai même lu un article sérieux sur Bloomberg disant que l'or était désormais un actif risqué en bourse. C'est vraiment n'importe quoi. Non, moi je vous le dis, l'or est toujours l'actif favori historique des investisseurs institutionnels face au stress géopolitique. Alors, pourtant, la réalité montre le contraire depuis le 28 février. Oui, mais la tendance de l'or, heureusement, il y a fin du sens, heureusement, qu'elle ne se résume pas à un seul moteur. Rappelez-vous la métaphore que je vous avais proposée de l'avion de ligne. Fin janvier, vous expliquant que l'or était un avion équipé de quatre gros moteurs. Et qu'arrive un moment, vous connaissez le principe, si un avion peut voler avec deux moteurs sur quatre, mais il va perdre de l'altitude, donc de redémarrer les moteurs. Bon, si on peut les réparer en vol, bien sûr. Bref, bon, on s'arrête avec la métaphore aérienne. L'or a perdu des moteurs. Mais le moteur géopolitique, lui, il est allumé depuis très longtemps. Et il est fortement allumé à fond, à plein régime, depuis l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Ce moteur est toujours allumé. Par contre, d'autres se sont sérieusement éteints, et c'est ce dont nous allons parler dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, et ça répond à toute la question. La question, faut-il revenir à l'achat sur le cours de l'or? Écoutez, la réponse est simple, elle est d'abord fondamentale. Oui, si les moteurs se rallument. Du coup, la vraie question est, quels sont ces moteurs? Et c'est facile à suivre. Les moteurs qui se sont éteints, je vais vous montrer, ça se suit en temps réel tous les jours. Il n'y a qu'à regarder quand est-ce qu'il se rallume, et dès qu'il se rallume, boum, vous repayez de l'or. Voilà, tout simplement. Alors après, bien sûr, avec ces moteurs fondamentaux, on va associer les enseignements de l'analyse technique. L'idée, c'est d'attendre un super support, un support vraiment majeur, et une fois que le marché se pose dessus, de vérifier que les moteurs fondamentaux se rallument. En tout cas, l'or reste l'actif favori en cas de stress géopolitique. Cette situation-là n'a pas changé. Elle existe notamment depuis 2022. Vous avez le Z-score ici, le score standardisé d'une sélection d'actifs dits à l'aspect refuge, le dollar américain, le yen, le franc suisse, les obligations et l'or. Depuis 2022, l'or a raflé la mise, le moteur géopolitique haussier est allumé, et non, le moteur géopolitique haussier ne s'est pas éteint le 28 février, il est même à plein régime, plein gaz, la manette est à fond, sauf que derrière, il y a trois moteurs éteints, et avec un seul moteur sur quatre, il est difficile pour un avion de voler, du coup, l'abaisser. Ok, donc alors effectivement, le constat est sans appel. Vous avez ici, donc je suis sur la plateforme TradingView, et je vous expose la performance d'une sélection de toutes les classes d'actifs depuis le début des opérations militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Vous allez retrouver tout en haut le TTF, qui est le contrat gaz européen, plus 66%, le pétrole, plus 39%, de manière très étonnante, les cryptos, ETH, plus 8, Bitcoin, plus 6, et ensuite, toute la panoplie des indices boursiers et les obligations qui baissent entre moins 3 et moins 10, et alors, incroyable, l'or, moins 12, l'argent, moins 20. Autant vous dire que vous revenez dans le passé avec une machine à voyager dans le temps, et vous dites à quelqu'un le 27 février, attention, demain, les États-Unis et Israël partent en croisade militaire contre l'Iran, je suis sûr que le 27 février, ce monsieur que vous croisez dans le passé, il achète de l'or. Il va faire la gueule, moi, plus tard. Bon, il va bouder. Donc, là, c'est quand même sans appel, ce classement de la performance depuis désormais un mois. Alors, que s'est-il passé? Parce qu'effectivement, il ne s'agit donc pas du tout de la remise en cause du statut de l'aspect refuge du cours de l'or. Non, le statut de valeur refuge de l'or n'est pas remis en cause. Le moteur géopolitique reste solide, idem la demande des banques centrales. Donc, c'est à nouveau l'occasion pour moi de refaire le point sur les différentes composantes de la demande d'or. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, au Conseil mondial de l'or, le World Gold Council, le Conseil mondial de l'or est cette fédération des principales compagnies minières d'or dans le monde. Et ils ont tout un tas d'économistes maison qui font de la recherche sur les tenants, les aboutissants de la tendance de fond du cours de l'or, avec des données de marché réelles, avec des données macroéconomiques concrètes qui remontent avec le temps et qui permettent de mesurer concrètement ce qui pousse l'or à la hausse ou à la baisse. Et donc, ce que nous savons, c'est qu'il y a quatre grandes catégories dans la demande d'or qui fait avancer l'or. La demande dite industrielle en joaillerie, bon, les bijoux, la demande industrielle en technologie, la demande dite d'investissement, qui passe par les ETF, les contrats futurs, les contrats à terme, la demande financière ou financière, si vous voulez, et la demande des banques centrales. Le facteur géopolitique, lui, se traduit ou non par une demande d'investissement. Le facteur géopolitique est un des moteurs de la demande d'investissement, mais ce n'est pas le seul. Bon, donc déjà, effectivement, la demande des banques centrales, elle reste complètement en soutien. Et le facteur géopolitique, oui. Mais déjà, vous constatez qu'il y a plusieurs composantes à la demande. La demande industrielle, vous savez, la demande en joaillerie. Il y a trois grandes zones dans le monde qui sont l'essentiel de la demande en joaillerie, en or. La Chine, l'Inde et l'Europe. Surtout la Chine et l'Inde. Bon, là, de quoi est-ce qu'on parle depuis les opérations du 28 février? Le détroit d'Ormuz qui est fermé, 85% de l'énergie qui transitait à destination de l'Asie. On sait, nous savons, je vous ai fait un top gun dessus pour vous montrer que l'Inde a des réserves stratégiques en pétrole très réduites. Ces économies asiatiques se mettent déjà en ralentissement, en mode ralenti. Chaque jour qui passe, c'est compliqué, sauf si la situation géopolitique s'améliore. Mais peu importe, les dégâts sont là. Naturellement, face à cette incertitude et au ralentissement économique, ralentissement industriel asiatique, l'industrie de la joaillerie n'y échappe pas, naturellement. Donc, déjà, on peut voir qu'il n'y a pas que l'aspect géopolitique. Mais creusons le sujet. En tout cas, pour ce qui est de la demande des banques centrales, là, ça ne cale absolument pas. Et je dirais même que le facteur de stress géopolitique reste donc une des composantes majeures de la demande des banques centrales. Notez que sur le site du World Council, hein, vous avez donc toutes les données d'évolution des réserves d'or par pays, trimestre après trimestre, année après année, et vous avez énormément, prenez par exemple l'exemple de l'année 2025, ce sont des grandes banques centrales non occidentales, la Pologne, le Kazakhstan, le Brésil, la Chine, la Turquie. Là, par exemple, sur le dernier trimestre 2025, eh ben, c'est l'Ouzbékistan, on trouve de plus en plus le Brésil et la Pologne. Bon, voilà, ça reste un moteur aussi. Donc ici, ça n'a pas calé. Ici, ça n'a pas calé. Alors, l'or, qu'est-ce qui se passe avec l'or? Effectivement, donc regardons déjà les vous avez vu la performance. Voilà, depuis le début du conflit, le conflit a commencé ici. Voilà, vendredi 27 février. Donc ça cote pas le week-end. Donc lundi 2 mars, il y a eu une journée de hausse de l'or. Regardez, une séance de hausse de l'or. Et depuis le début du conflit, l'or est passé de 5004 à 4096 quand j'enregistre la vidéo. De 5004 à 4096. Donc effectivement, moins 25%, ça pique. Alors, après, première chose, qu'est-ce qui explique que l'or retrace ? C'est qu'il était en bulle spéculative depuis des mois et que des objectifs majeurs avaient été atteints en amont du conflit. Une bulle, une tendance haussière de l'or, regardez le graphique en données mensuelles, alimenté depuis très longtemps par le moteur géopolitique. D'ailleurs, bon, personne n'a découvert que c'était chaud entre l'Iran, Israël et les États-Unis. C'est presque un peu le mode acheter la rumeur, vendre la nouvelle, si vous voulez. Il y allait y avoir un déclencheur. Une verticalité comme ça, c'est une bulle spéculative. Tôt ou tard, ça s'arrête, surtout lorsque des targets long terme sont atteints. Je vous ai remis ici par exemple la target de Goldman Sachs qui a été atteinte en début d'année à 5 400 $. Celle de BNP n'a pas été atteinte. C'est vrai que ça ressemble beaucoup, regardez, à la bougie mensuelle de fin de hausse de 2011. Là, vous aviez eu l'envolée de l'or entre 2000 et 2011 et il y avait eu un avalement baissier mensuel. Et bien là, on a eu l'envolée de l'or de 2022 à 2026 et on est en train de faire un avalement baissier mensuel. Pour autant, à l'époque, l'or est simplement entré en range. Alors finalement, il a fini par faire une tendance baissière 2 ans plus tard, mais ça, on ne sait pas. En tout cas, effectivement, c'est une bougie de rupture. D'autre part, regardez, je vous remontre les indicateurs de momentum mensuel avant le début du conflit. L'or était en bulle, l'or était en surachat massif. Donc finalement, tout de suite, maintenant, on se dit, bon, bah, au fond, pourquoi l'or baisse depuis le début du conflit et qu'il avait déjà bien monté et qu'il était en surachat massif. Bon, nous pouvons nous contenter de cette simple explication. Mais heureusement qu'il ne faut pas, parce que la vraie question, c'est l'or a perdu des moteurs haussiers. L'or, dans toute cette phase de baisse, 25%, des moteurs haussiers ont disparu. Ces moteurs haussiers qui ont disparu vont, à un moment ou à un autre, se rallumer. L'idée, c'est quand est-ce qu'ils vont se rallumer et serons-nous sur support majeur ? Donc c'est un peu tout ça que nous allons voir. En tout cas, je vous remontre ici cette infographie qui avait été publiée fin 2025 sur les objectifs de cours un peu des différents analystes institutionnels commodities. Et les plus optimistes voyaient justement la zone des 5003-5004. Donc au fond, l'or, avant le début du conflit, avait déjà atteint les objectifs de cours les plus optimistes pour cette année. Donc ça, c'est une première raison. L'or était en bulle spéculative. Là, je vous remontre, en 2025, l'or avait écrasé tout le monde. Voilà, à un moment ou à un autre, c'est logique aussi. Vous savez, face à l'incertitude géopolitique, il y a mieux que l'or, hein, c'est être en cash. Et je vous ai montré dans le top Yann que la part du cash chez les gérants est en train de remonter. L'or, là, qui est vendu depuis le début du conflit, c'est aussi parce qu'on repasse en cash. Voilà, donc faut pas oublier aussi l'arbitrage entre la liquidité et le cash. En tout cas, bon, on peut se dire que l'or était déjà en surachat et qu'il corrige pour ça. En fait, mais bon, c'est pas ça. La vraie raison, c'est qu'il a perdu des moteurs aussi. Donc je reprends ma métaphore de l'avion. J'aime bien cette infographie qui a été proposée par le World Council et qui un peu donne un poids relatif aux différents moteurs. Le moteur géopolitique, vous voyez qu'il le quantifie comment ? 8 sur 60. Donc, eux, ils quantifient le moteur géopolitique comme ayant un impact de 8 sur 60. Ce moteur géopolitique, 8 sur 60, il est à fond, il est plein gaz. Mais vous avez par exemple le moteur Forex, le moteur taux d'intérêt, le moteur expansion économique. Là, écoutez les amis, avec la situation depuis fin février, l'incertitude macroéconomique, elle est énorme. L'incertitude sur l'inflation, les perspectives de taux d'intérêt. Le dollar a fortement rebondi. Les taux d'intérêt explosent. Il y a une corrélation inversée, historique, entre l'or, les taux d'intérêt du marché et la tendance de fond du dollar américain. Donc certes, le moteur géopolitique est à fond, 8 points, mais FX, taux d'intérêt, macroéconomie, c'est bien plus fort que la géopolitique. Et eux, ils se sont tous éteints. Même, non seulement ils se sont éteints, mais ils sont en marche arrière. Écoutez, je me suis amusé, j'aime bien faire des tableaux. J'ai fait un peu la synthèse de tout ça. Mais je vous montre, regardez, l'envolée des taux d'intérêt depuis le début du conflit. Depuis le début du conflit, le fort rebond du dollar américain, enfin c'est un panier de devises. Bon, ben voilà, là vous avez les deux moteurs principaux qui se sont éteints. Donc effectivement, l'or fera son bottom final quand les moteurs fondamentaux éteints, voire qu'on fait machine arrière depuis le début du conflit, vont se rallumer. Alors déjà, il y a l'aspect macroéconomique. La pression, elle est énorme sur l'Inde et la Chine. L'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, les principales économies asiatiques. Et pour ce qui est de l'or, c'est surtout l'industrie de la joaillerie indienne et chinoise. Ils sont sous pression à mort. Il n'y a plus une goutte d'énergie qui passe par les détroits d'Ormuz. Ils en sont dépendants en fonction des pays à 40 ou 50%. L'Inde a des réserves stratégiques nettement moins importantes en termes de durée que la Chine. C'est chaud. Chaque jour qui passe, c'est chaud. Bon, donc déjà, il y a ça. Mais en fait, ce n'est pas la vraie raison. Si je dois vous donner trois raisons, les trois moteurs qui sont éteints, c'est l'envolée des taux d'intérêt qui met la pression à la baisse sur l'or, le fort rebond du dollar américain, l'absence d'anticipation de baisse de taux avant fin 2027 maintenant, et vous allez voir, des outflows des ETF Gold US. C'est sans appel, les données sont sans appel, je vous les présente tout de suite. Vous êtes ici face donc à l'évolution des inflows et des outflows sur les ETF gold du monde, sachant que ce sont ceux des États-Unis qui comptent le plus, parce que l'AUM des ETF US c'est 307 milliards, contre 208 pour l'Europe et 80 milliards pour l'Asie. Donc les ETF gold US ont un AUM Asset Under Management qui est plus important que l'Europe et l'Asie réunies. Et regardez, depuis le début du conflit, depuis début mars, Amérique du Nord, on est sous zéro, ce sont des outflows. Depuis le début du conflit, les gérants institutionnels dégagent, revendent aux États-Unis des ETF Gold. Pour quelles raisons? Lorsque vous les interrogez, ils mettent en avant deux raisons, le rebond du dollar américain et le rebond des taux d'intérêt. Donc, en clair, quand revenir à l'achat sur l'or, déjà, il faut que techniquement, il se stabilise sur support, lorsque le dollar donnera des signaux de fin de hausse et lorsque les taux d'intérêt recasseront des supports. Et voilà. Quand revenir à l'achat massivement sur les métaux précieux, lorsqu'ils seront stabilisés sur un support technique majeur, lorsque l'or donnera un signal de baisse et lorsque les taux d'intérêt recasseront à nouveau des supports. Et je vais vous donner notamment un support à suivre sur le rendement obligataire à 2 ans américain. Et si vous voulez, à partir du moment... Alors moi, je suis ces données d'évolution... Des ETF US, je les suis tout le temps. À un moment ou à un autre, si je vois que des inflows reviennent, ok, pour l'instant, ce sont des outflows. C'est mis à jour chaque vendredi. Donc ça, c'est la seule raison de la baisse de l'or depuis un mois, c'est ça. Ça dégage des ETF US. Parce que, regardez le 2 ans américain, le taux d'intérêt à 2 ans américain est passé au-dessus du taux d'intérêt de la Fed. Le taux de la Fed est à 3,75, le 2 ans américain sera à 3,93. Ça veut dire que le marché anticipe des hausses de taux. Tant que le 2 ans américain ne repasse pas sous le taux de la Fed, c'est beaucoup trop tôt pour racheter l'or. Tant que le 2 ans américain ne repasse pas sous le taux d'intérêt de la Fed, c'est beaucoup trop tôt pour repasser massivement à l'achat sur le cours de l'or. Alors, le retracement de l'or est-il une opportunité? Donc, vous avez compris sur le plan fondamental. Oui, à la fin, nous savons tous que ce sera une opportunité, mais quand revenir à l'achat? Alors, moi, le niveau de prix que je vais vous donner peut paraître loin, mais c'est le seul qui est évident. Le niveau de prix que je vais vous donner, c'est le niveau des 3 400, 3 500 dollars. C'était l'ancien record historique de 1980, mais retraité de l'inflation. Alors, vous allez voir, en 1980, le record, c'était 800 dollars. Qu'est-ce que je raconte? Non, mais retraité de l'inflation, ça donnait 3 400 dollars. D'ailleurs, vous voyez qu'on y a passé un certain temps. Pour moi, le niveau vraiment où je reviens à l'aise sur ce marché, c'est la zone des 3 400, 3 500 dollars. D'ailleurs, regardez en données journalières. Donc, nous sommes revenus à la moyenne mobile à 200 jours. Je prends une ancienne phase haussière qui est importante, Ici, cette phase haussière, vous voyez, elle avait été parfaitement guidée par la moyenne mobile à 200 jours, mais quand on la casse, eh bien, on fait ABC, on fait une jambe plus basse. Donc là, le cours de l'or, en données journalières, effectivement, il a non seulement, alors, il a cassé le nuage journalier du système Ishimoku, qui guidait quand même la hausse depuis janvier 2024. Là, il y a eu une première réaction sur la moyenne mobile à 200 jours. Bon, il y a, alors, effectivement, alors, on peut se dire que l'intervalle entre 3004, 3005 et la MM200, ok, mais si on casse la MM200, on ira chercher 3004, 3005. Voilà, donc là, on est vraiment dans un entre-deux, mais le marché est sous pression. Le marché est sous pression. Je vous remonte notamment ici l'horizon de temps mensuel où bah, on est en train de sortir par le bas de la zone de surachat. Ça ressemble vraiment quand même à des signaux que le marché a pu donner. Et ensuite, rester un certain temps. Moi, ça me rappelle cette bougie ici de septembre 2011, où finalement, après, on a fait un range. Et là, on va faire un truc un peu... Il y a une rupture. Donc moi, le niveau vraiment évident que je vois, c'est 3004, 3005. Ça peut paraître bas, mais c'est le niveau techniquement sur lequel je reviens avec confiance sur ce cours de l'or. Et en ce qui concerne l'argent métal, y a-t-il un niveau sur lequel je reviens avec confiance ? Déjà, oui, le repli de l'argent est une opportunité. Il y a un décalage industriel massif entre l'offre et la demande. Et ça, c'est une dynamique. Je vous ai remis toutes les données à gauche. Ça, c'est une dynamique qui va se poursuivre ces prochaines années. Maintenant, l'argent aussi avait atteint des objectifs de cours majeurs. L'argent aussi avait atteint des objectifs de cours majeurs. Et je vous remontre ici le graphique du cours de l'argent en données mensuelles. Voilà, il avait atteint le report de cet ancien range, un range qui est vu quand même de 40 ans, c'était la zone des 100-120 $. Voilà, j'avais reporté ici l'amplitude, 1000 extensions de Fibo. Le niveau évident pour acheter l'or, c'est 50 $. L'argent, c'est 50. Le niveau sur lequel je reviens avec confiance sur l'argent, c'est 50 $. Et sur l'or, 3400-3500 $. Là, d'accord. Là, ok, ça se tente d'y revenir massivement. Donc, vous voyez finalement que, il ne faut pas non plus être trop pressé. Et de toute façon, ce qui compte, le plus important, c'est vraiment que les moteurs fondamentaux qui se sont éteints se rallument. Donc, surveiller les taux d'intérêt, le dollar et les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Merci à toutes et à tous de votre attention et je vous souhaite une bonne suite de semaine. Merci de m'avoir écouté.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.